Décryptage. Anne Corpet.
Des combats entre Arméniens et Azerbaïdjanais ont fait plus de 170 morts entre lundi soir et mercredi. Le cessez-le-feu instauré la nuit dernière semble tenir pour l'instant. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir pris l'initiative des attaques, mais c'est bien l'Azerbaïdjan qui a poussé l'offensive au-delà de ses frontières. Yerevan dénonce l'occupation de 10 km² de son territoire. Ces affrontements sont les plus intenses depuis une guerre entre les deux pays en 2020 pour le contrôle de la région disputée du Nagorno-Karabakh. L'Azerbaïdjan en était sorti vainqueur et l'Arménie avait dû concéder une importante partie de territoire. Cette reprise des hostilités montre la fragilité de l'accord de paix signé à l'issue de cette guerre de 2020. Elle interroge aussi sur le rôle de la force russe de maintien de la paix déployée dans la région et sur l'impuissance de la communauté internationale. Les Nations Unies se sont dites aujourd'hui incapables de vérifier les allégations des deux parties. Aujourd'hui, Décryptage se penche sur un conflit né il y a plus de 30 ans et qui n'a jamais tout à fait cessé. Bienvenue, ravie de vous retrouver. Et avec nous, pour évoquer la résurgence de ces tensions autour du Haut-Karabakh, Tigran Yegavian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement, membre du comité de rédaction de la revue de géopolitique Conflit et auteur de Géopolitique de l'Arménie. C'est sorti chez Biblio Monde en 2022. Merci d'être venu jusqu'à nous en studio. Nous sommes aussi en ligne avec Jean Radvani. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe et géopoliticien et professeur à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Merci d'être là avec nous également. Alors, les hostilités qui ont repris dans la nuit de lundi et mardi ont donc été d'une intensité sans précédent depuis 2020. Yerevan dénonce des frappes sur des infrastructures militaires, mais aussi civil. Le village arménien de Zotsk a notamment été pris pour cible. Écoutez le témoignage de deux habitants de ce village pris pour cible. Il a été recueilli par nos confrères de France 24.
L'unité militaire a d'abord été bombardée. Nous avons eu très peur. Nous avons fui les maisons pour ne pas être piégés sous les décombres. Et nous nous sommes cachés près de ce grand mur. Les voisins se sont également rassemblés et se sont cachés là.
Bien sûr, il fallait s'attendre à une nouvelle guerre, vu l'accumulation des Azerbaïdjanais à la frontière.
Tigran Yegavian, cette relance des hostilités par Bakou était prévisible, comme le dit cet Arménien ?
Absolument prévisible, pour plusieurs raisons déjà, parce que depuis la dernière guerre de 2020, qui n'a absolument rien réglé, c'est un cessez-le-feu, l'Azerbaïdjan a certes conquis 75% des territoires contrôlés par les Arméniens, mais elle ne veut pas s'en arrêter là. Pourquoi ? Parce que le rempart de force est complètement changé en sa faveur. Elle poursuit trois objectifs. Le premier, elle veut se débarrasser une fois pour toutes des Arméniens du Karabakh. Donc c'est un nettoyage ethnique, étouffer au maximum ce qui reste du Karabakh arménien. Deuxième objectif, obtenir ce qu'ils n'ont pas réussi depuis 2 ans, c'est-à-dire un corridor souverain donc au sud de l'Arménie, qui transiterait par l'Arménie pour la relier à son esclave du Nakhitchevan qui lui appartient et qui est lié à la Turquie. Donc corridor pan-turquiste, entre guillemets, qui est une vraie menace pour l'Arménie. Troisième objectif, obtenir un accord de capitulation et pas de paix, puisque ce qu'ils veulent, c'est une Arménie à genoux, une Arménie exsangue. Et effectivement, il faut nommer les choses telles qu'elles sont. C'est une agression militaire qui a lieu et pas une reprise d'affrontements frontaliers.
Jean Radvani, vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est une agression, pas des affrontements entre deux parties en conflit ?
Il y a bien entendu une agression azerbaïdjanaise, et ce qui est nouveau, c'est qu'elle se produit en territoire arménien et pas seulement sur le territoire du Karabakh. Je pense quand même qu'il faut faire un peu attention à l'analyse qu'on en fait. D'une part, il n'y a pas eu d'accord de paix en 2020. Il y a eu un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu était certainement défavorable aux Arméniens, dans la mesure où, en fait, si vous voulez, ils avaient en 2014 gagné une guerre. Ils ont occupé effectivement une partie des territoires de l'Azerbaïdjan en dehors du Karabakh. Et sur cette base-là, comme ils étaient victorieux, ils auraient pu négocier quelque chose. Mais pendant 20 ans, il n'y a pratiquement pas eu de négociation. Alors, bien entendu, c'est pas très facile de négocier avec Aliyev père et fils, c'est clair, parce que l'Azerbaïdjan tient absolument ce que la communauté internationale a retenu aussi, que le Karabakh est sous la tutelle, même s'il y a une autonomie, tout ce qu'on veut, mais les Azéris considèrent que c'est sous la tutelle de l'Azerbaïdjan. Et donc, sur cette base-là, il y a une négociation qu'il faudra mener. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le contexte aujourd'hui. L'Azerbaïdjan a attaqué alors qu'il sait que la Russie est en guerre.
On va revenir sur le rôle des Russes. Tout d'abord, je voulais vous faire écouter Aniar Evazov, le porte-parole du ministère azerbaïdjanais de la Défense. Bakou dit avoir répondu à des provocations.
Dans la nuit, des groupes de sabotage des forces arméniennes ont profité des zones montagneuses et de la présence de ravins dans la zone pour déposer des mines sur différentes routes d'approvisionnement utilisées par les forces azerbaïdjanaises.
Tigran Yagavian, même si ce que dit le porte-parole du ministère azerbaïdjanais de la Défense est vrai, à savoir que les Arméniens auraient posé des mines, je suppose qu'on parle là du corridor de la Chine hein, qui rejoint l'Arménie au Karabakh. Mais en tout cas, la réponse est disproportionnée.
Bon, déjà, je crois que l'argument des accusations, en tout cas de la part du régime de Bakou, ne tient pas à la route pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'armée arménienne n'est pas en état de combattre. L'armée arménienne ne s'est pas relevée de la défaite militaire de 2020. Et on s'est habitué à ce genre de narratif de la part de ce régime. À chaque fois qu'il prépare une offensive qui est tout à fait prévisible, il commence toujours par cette rhétorique d'accusation, de provocation arménienne. Et comme par hasard, ont lieu des manœuvres avec l'armée turque, comme en 2020. Exactement, c'est la répétition du même scénario qu'on a connu en 2020, c'est-à-dire qu'il y a eu des manœuvres avec l'armée turque pour tester le système de défense antiaérienne de l'Arménie. Donc je crois que l'Azerbaïdjan, encore une fois, essaie de pousser à fond son avantage pour obtenir le maximum de concessions territoriales en vue d'un accord qui se traduira par des concessions territoriales.
Alors, Jean Radvani, vous évoquiez tout à l'heure le rôle de la Russie, et c'est vrai qu'il y a un accord de sécurité entre Moscou et l'Arménie, que Moscou est censé aider le pays dans de telles situations. Yerevan est aussi membre de l'Organisation du traité de sécurité collective et a immédiatement demandé l'aide de la Russie. Je vous propose d'écouter le Premier ministre arménien.
Selon l'article 4 du traité, une agression contre l'un des pays membres est considérée comme une agression par les autres pays. Nous demandons une assistance, y compris militaire, pour restaurer l'intégrité territoriale de l'Arménie et assurer le retrait des forces armées azerbaïdjanaises de notre territoire.
Jean Radvani, pourquoi la Russie n'a pas répondu à l'appel des Arméniens ?
En principe, il y a une délégation qui a été envoyée par la Russie. Je crois qu'il est clair que Aliyev est intervenu. Cette agression azerbaïdjanaise, elle intervient. Ils savent très bien qu'en ce moment, les Russes sont sur un tout autre front avec de grandes difficultés. Et c'est évident qu'ils vont chercher à en profiter. C'est pour ça que la prévisibilité de ce conflit tient aussi à la guerre qui a lieu en Ukraine en ce moment. Il y a une autre donnée du problème dont on n'a pas du tout parlé, c'est que depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril, il y a des négociations en cours entre le Premier ministre arménien et les Azerbaïdjanais qui ont lieu à Bruxelles sous l'égide de la communauté européenne et qui ont dégagé un certain nombre de points plutôt positifs. Et il est clair que avis, et du côté azerbaïdjanais et du côté arménien, il y a des gens qui ne veulent pas d'un accord de paix. Il y a eu des manifestations très importantes contre le Premier ministre arménien à Erevan ces dernières semaines.
Et ces derniers
et
jours,
ça,
d'ailleurs.
Ça pose un autre
problème. Bon, on reparlera de la situation politique intérieure.
Ça pose quand même un problème, parce qu'il va falloir quand même que les Arméniens se décident à définir sur quelle ligne ils entendent négocier. Parce que s'il n'y a pas de négociation, ils vont tout perdre.
C'est votre inquiétude aussi, Tigran Yagavian ?
L'inquiétude surtout, c'est que l'Arménie est complètement isolée diplomatiquement et on ne peut pas parler d'alliance avec la Russie. Ça ne tient pas à la route pour une simple raison, c'est que la Russie considère l'Arménie comme un vassal et pas comme un allié. Et on voit bien le deux poids deux mesures dans le traitement du problème arménien par Moscou. Rappelez-vous, au mois de janvier, quand le Kazakhstan, qui est aussi membre de l'OCTS comme l'Arménie, a connu des troubles internes, la Russie n'a pas tardé à débloquer la clause de sécurité de
l'article 4
d'assistance militaire. Même l'Arménie avait envoyé un petit contingent. Or, là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une réunion à Moscou, et au lieu d'envoyer des troupes pour défendre le territoire souverain d'un État membre d'organisation attaqué par un État tiers, on a envoyé une commission pour évaluer la situation. Donc, je crois qu'il y a un double jeu de la part de la Russie. N'oubliez pas aussi une donnée importante qui n'est pas suffisamment abordée, c'est que la Russie ne veut pas s'aliéner à l'Azerbaïdjan. La Russie a énormément d'intérêts stratégiques avec l'Azerbaïdjan. La veille, l'avant-veille du déclenchement de l'offensive russe contre l'Ukraine, il y a eu un accord important entre Moscou et Bakou, notamment en termes économiques. La Russie veut absolument poursuivre un objectif très clair, c'est l'ouverture des voies de communication qui la relie donc via l'Azerbaïdjan à l'Arménie et à la Turquie. Donc elle est favorable à ce corridor du Zanguezour, sous son contrôle. C'est pourquoi on ne peut pas parler de la Russie comme un allié, mais plutôt comme une puissance dominante, bien qu'affaiblie par la Turquie, qui entend revenir donc dans son précaré caucasien. De leur côté, les Azéris considèrent aussi les Russes comme une, en tout cas le maintien d'un contingent de maintien de la paix russe au Karabakh comme une force d'occupation. Donc c'est excessivement difficile pour les Arméniens de compter sur l'appui des Russes, sachant qu'ils ne sont qu'une petite variable d'ajustement qui, bien entendu, par perte et profit, et effectivement, les Russes ont beaucoup d'intérêt avec l'Azerbaïdjan, ce qui est très défavorable pour l'avenir d'un processus de paix, parce qu'à l'évidence, ils ne veulent pas régler le problème, mais le geler pour pouvoir maintenir leur présence militaire dans leur ancien précaré.
Vous êtes d'accord, Jean Radvani, la Russie, en fait, est-ce qu'elle est capable de jouer son rôle de médiateur qu'elle se targue d'occuper ?
Je ne suis pas sûr que la Russie soit à même de jouer ce rôle, effectivement, même s'il le voulait en ce moment à cause de la guerre en Ukraine. Par ailleurs, je ne pense pas que ce soit l'intérêt des Russes que ce corridor entre la Turquie, le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan se fasse. C'est l'intérêt des Turcs et des Azéris, pas des Russes. Parce que les Russes, ils ont d'autres voies de passage vers la Turquie. Ça leur a été imposé. Ça leur a été imposé en 2020, suite à la défaite, effectivement, des Arméniens contre la coalition Azerbaïdjan-Turquie. Et je crois que la Russie est affaiblie, elle est sur le recul au Caucase aussi. Alors bien entendu, il y a des intérêts effectivement entre la Russie et l'Azerbaïdjan qui portent sur d'autres domaines, mais je crois qu'il faut bien mesurer les choses. Je crois qu'on a assisté à une avancée de la Turquie et à un recul de la Russie dans cette région ces dernières années.
Alors,
bien entendu, aujourd'hui, avec la guerre en Russie, c'est très difficile. Ça va être très difficile pour les Russes d'intervenir.
Alors, il y a aussi l'Union européenne qui est chargée de chapeauter le processus de paix. Mais elle a signé en juillet dernier un accord exceptionnel avec l'Azerbaïdjan sur les livraisons de gaz afin de se défaire de sa dépendance à la Russie en la matière. Et là aussi, c'est lié avec la guerre en Ukraine. Tigran Yegavian, est-ce que ça explique les réticences occidentales à incriminer directement Bakou ?
Absolument. Enfin, en tout cas, on diabolise d'un côté Vladimir Poutine et on essaie de s'accorder les grâces du dictateur Aliyev dont le clan est au pouvoir en Azerbaïdjan depuis 50 ans. Et cet accord donc, de livraison de gaz azerbaïdjanais sur 20 ans est un atout, une rente majeure pour l'Azerbaïdjan qui se retrouve effectivement dans une position de force. Et l'Union européenne, encore une fois, est inaudible. Elle n'a pas la main sur ce dossier. Jusqu'au cessez-le-feu, jusqu'à la guerre de 2020, c'était le groupe de Minsk qui est lié à l'OCE, qui est un groupe de contact, de médiation, co-dirigé par les Français, les Américains et les Russes, qui était en charge du dossier. Et le groupe de Minsk n'existe pratiquement que sur le papier depuis 2020. L'Union européenne essaye de parvenir à un règlement graduel d'un conflit complètement insoluble, puisque le conflit du Karabakh, en fait, oppose deux principes de droit international complètement antagonistes. Un côté, l'autodétermination d'un peuple autochtone, le peuple arménien du Karabakh, qui aspire à vivre en liberté et qui est menacé de nettoyage ethnique, c'est clair et net. D'ailleurs, c'est avéré par le comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU, qui a fait un rapport accablant il y a quelques semaines à ce sujet. Et puis, d'autre part, l'Union européenne donc, n'a pas les marges de manœuvre suffisantes pour pouvoir avancer.
Et juste après cette offensive azérie, le député européen François Bellamy des Républicains a pris la parole au Parlement européen pour dénoncer l'attaque de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Il a enjoint les membres de l'Union à arrêter de traiter l'Azerbaïdjan comme un partenaire légitime. On l'écoute.
l'Azerbaïdjan a lancé une attaque militaire de grande ampleur contre l'Arménie. Rien, rien ne peut justifier cette agression. Il y a 2 ans, violant toutes les règles du droit international, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, avait attaqué le Haut-Karabakh. Cette fois, il s'en prend au territoire même de la République d'Arménie. Nous avons soutenu, chers collègues, sans hésiter, le peuple ukrainien lorsqu'il a été attaqué par la Russie. Nous devons dénoncer avec une voix aussi claire l'agression criminelle lancée cette nuit par le régime de M. Aliyev. Madame la Présidente, notre position déterminée peut empêcher cette guerre et peut arrêter l'Azerbaïdjan dans le projet qu'il prépare. Arrêtons enfin de traiter cet État criminel comme un partenaire légitime et de financer ses menaces en lui achetant du gaz. Prenons rapidement des mesures pour préparer des sanctions qui soient efficaces. Nous le devons à la sécurité de notre continent, mais nous le devons surtout, surtout au peuple arménien avec lequel nous vivons de tout cœur ces heures de deuil et d'angoisse.
Jean Ralvani, l'Europe qui se présente comme un intermédiaire honnête entre les deux parties, est-ce qu'elle a les moyens de sanctionner Bakou, comme le demande François Bellamy ?
Je crains que non, parce que comme on le sait, en fait, effectivement, depuis 30 ans, 40 ans, nous sommes très soumis aux intérêts pétroliers, gaziers des grands producteurs, que ce soit la Russie pendant 30 ans et jusqu'aux sanctions récentes, et avec l'Azerbaïdjan maintenant, c'est pareil. Donc effectivement, on a une main faible et d'autre part, depuis le début, nos rapports avec l'Azerbaïdjan, pour l'Azerbaïdjan, on avait dit, nous défendons, on a signé un traité avec l'Azerbaïdjan disant que nous défendions l'intégrité territoriale, c'est-à-dire le fait que le Karabakh faisait partie toujours du point de vue international de la tutelle de l'Azerbaïdjan, et avec l'Arménie, l'Union européenne a signé effectivement, comme le rappelait tout à l'heure Tigrane, un texte où on indique qu'on défend le droit du peuple à se définir de façon indépendante. Donc à partir de là, l'Union européenne a toujours eu une voix faible. Alors ça ne veut pas dire qu'on puisse rien faire, il faut essayer de peser dans cette affaire pour que l'Azerbaïdjan cesse son agression et que le cessez-le-feu soit respecté, et pour que effectivement il y ait des négociations véritables, en espérant que de part et d'autre, les oppositions, en Azerbaïdjan il n'y en a pas, mais qu'en Arménie, l'opposition ne freine pas complètement un processus nécessaire.
Alors justement, Tigrane Yegavian, il y a eu des manifestations à Yerevan. Mercredi soir, des milliers de personnes ont demandé la démission du Premier ministre qu'ils accusent de faiblesse à l'égard de l'Azerbaïdjan. Ça peut susciter une crise politique en Arménie.
Le souci, c'est que l'Arménie est en état de crise structurelle depuis 2020, depuis la fin de la première phase de cette cessez-le-feu en tout cas. Le problème essentiel, c'est l'incompétence des élites arméniennes à avoir, comme le rappelle le professeur Advani, une vision claire pour l'avenir du statut du Karabakh. D'un côté, vous avez les jusqu'au boutistes de l'opposition qui n'ont pas une vision claire de ce que c'est qu'un État et comment on occupe une représentation du réel. Et de l'autre, vous avez une classe politique accusée de tous les maux de comportements erratiques. Donc moi, je crois que le pays est vraiment dans un état de déliquescence accélérée. Et malheureusement, je ne vois pas d'autre salut que la démission de M. Pachinian et la constitution d'un gouvernement d'unité nationale avec des technocrates et une concentration sur le régalien, c'est-à-dire la diplomatie, parce que la diplomatie arménienne n'est pas audible. On voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, comprenons bien, c'est un désaveu de M. Pachinian. Parce que M. Pachinian a cru qu'il pouvait avancer un agenda de la paix, en entamant un processus de normalisation avec la Turquie. Et la Turquie, on voit bien qu'elle est encore à la manœuvre dans ce qui se passe aujourd'hui, puisque l'état-major turc est présent aussi, avec les Bayraktar, avec les drones. Donc c'est un désaveu profond, et le seul, je crois, salut de l'Arménie passe par une refonte totale de son système politique et la constitution d'un nouveau gouvernement.
Merci beaucoup Tigrane Yegavian. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement et auteur de Géopolitique de l'Arménie chez Bibliomonde, et c'est paru cette année. Merci beaucoup aussi au professeur Jean Radvani, géographe et géopoliticien, professeur à l'INALCO. Merci à Claude Battista qui a réalisé cette émission et à Éléonore Krenik qui m'a aidé à la préparer.